Rencontre.
Rencontre avec Nathalie Lefèvre. En tête à tête avec les thérapeutes.
Bonjour et bienvenue mes chers auditeurs sur Radio Médecine Douce. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Philippe Cheniot. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nathalie.
Comment allez-vous ?
Bien, bien, merci, très bien. Et vous ?
Alors, ça va très bien, je vous remercie. Alors, pour vous présenter, Philippe, vous êtes coach, formateur, sophrologue, praticien d'hypnose. Enfin, je crois que vous avez quand même un panel de thérapies à votre actif assez important. Comment est-ce que vous êtes tombé dans ce monde qui est le vaste monde du coaching ?
C'est une très bonne question. Merci de la poser parce que, en fait, c'est vraiment lié à mon histoire personnelle dans le sens où, quand j'étais enfant et adolescent, j'ai souffert de problèmes de santé assez graves. Et la médecine classique ne me permettait pas en fait de me maintenir en bonne santé, donc je me suis posé beaucoup de questions et naturellement je me suis tourné vers l'alimentation saine, les techniques d'hypnose, etc. etc. Et j'en ai fait finalement mon métier parce que j'ai eu de très bons résultats sur moi et j'en ai fait mon métier. J'ai fait des études de biologie et microbiologie, mais finalement je me suis formé à la sophrologie, hypnose, relaxation, etc. etc. pour aussi être mon propre médecin, si je puis dire, et puis aider les autres, quoi.
Alors, est-ce que ces approches sont finalement complémentaires du coaching ?
Alors, toutes ces approches, oui, parce que pour moi, le mot coaching, ça englobe d'abord un accompagnement. Et quand j'accompagne quelqu'un, ben, j'accompagne une personne dans sa globalité, dont j'ai besoin d'outils. Et j'ai besoin donc de la sophrologie ou de l'EFT, qui est une technique qui permet vraiment d'amener la personne à gérer ses aspects émotionnels et à s'en libérer. J'ai besoin d'autres outils pour travailler sur le plan existentiel ou d'autres outils comme des conseils en alimentation pour travailler sur le plan organique. Donc tout ça, c'est du coaching pour moi. C'est-à-dire c'est vraiment un accompagnement. Un coach pour moi, c'est quelqu'un qui peut donner des outils à la personne à différents niveaux pour l'amener à être autonome, en fait. C'est ça dont le coaching a besoin d'outils, et c'est pas simplement donner des conseils, c'est aussi donner des outils aux personnes.
Alors aujourd'hui, Philippe, avec vous, on aborde le thème de la dévalorisation. Alors on en parlait un petit peu hors antenne, c'est un thème qui est de plus en plus fréquent, on sent que les gens sont vraiment dans un désamour d'eux-mêmes. Alors selon vous, d'où est-ce que ça vient ?
Alors pour moi, d'après mon expérience, j'ai pu constater, et je le vois régulièrement au travers de mes patients, c'est qu'il y a des ancrages de dévalorisation depuis la tendre enfance, hein, depuis même peut-être avant même la naissance, parce que nous sommes d'abord, et nous le savons tous, des êtres affectifs, nous existons par l'amour et la reconnaissance. Et chaque fois que cela va manquer, eh bien, nous allons ancrer de la dévalorisation, de la culpabilité, etc., etc. On pourra développer cela si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remonte à des chocs et des traumatismes émotionnels qui vont se répéter s'ils ne sont pas réglés au travers de l'éducation familiale, au niveau du milieu scolaire, dans la vie sociale. On est aussi dans une vie sociale très compétitive, basée sur la compétition, donc qui crée aussi de la dévalorisation. Tout ça va en fait sans cesse accentuer ces ancrages de dévalorisation, quoi. Donc moi, quand j'ai des personnes en consultation, ben, chaque fois je constate ces ancrages de dévalorisation. Et quand je remonte dans le passé, on retrouve des traumatismes. Et quand on les a identifiés, on va les désamorcer, on va les désengrammer pour permettre à la personne de s'en libérer. Et puis ça, c'est un premier pas que je pourrais aussi développer si vous voulez. Et dans un deuxième temps, on va aussi aider la personne à se valoriser. Donc c'est tout un processus, toute une rééducation, si je puis dire, pour apprendre à la personne à se valoriser, parce qu'on ne nous apprend pas à l'école ou ailleurs à nous valoriser.
Alors selon vous, est-ce qu'on a quand même besoin du regard des autres pour apprendre à s'aimer ?
Alors Ça peut être utile le regard des autres. Ça peut, c'est bien de remarquer que quelqu'un nous renvoie du positif ou des compliments. Mais ça ne suffit pas, à mon avis. Et comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes très autocritiques envers nous-mêmes. Hein, parce qu'il y a vraiment des exigences éducatives, sociales, etc., qui conduisent à beaucoup d'autocritiques. Et nous sommes plutôt dans le jugement personnel, l'auto-jugement et le jugement d'autrui qu'autre chose. Nous ne sommes pas vraiment bienveillants avec nous-mêmes. Donc c'est tout un cheminement, tout un apprentissage à faire à ce niveau-là. Et le regard de l'autre ou des autres ne suffit pas, même s'il est compatissant, positif. Ce qui sera très rare si on ne s'aime pas, en fait, si on souffre de dévalorisation. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, nous attirons à nous ce que nous sommes, hein. Vous connaissez l'effet miroir et la loi d'attraction. Donc, lorsque je ne m'aime pas, lorsque je me critique, je vais attirer de la critique, je vais attirer du jugement, je vais attirer du rabaissement, etc., etc. C'est inévitable. Donc, c'est bien de remarquer, oui, que parfois on nous dit choses positives, mais de toute façon, quand on est en dévalorisation, on ne le remarque même plus, on ne le remarque même pas. Et puis, comme je viens de dire, c'est plutôt des regards négatifs qui sont portés vers nous. Donc, le but, et c'est ce que j'apprends moi dans mon coaching, dans mon accompagnement auprès de mes patients pour se valoriser, c'est vraiment d'apprendre à porter un regard positif sur soi, sur sa vie, sur ce que l'on est, sur notre vie passée, sur notre vie présente et sur la personne que l'on est. Et en fait, apprendre à la personne à reconnaître sa beauté intérieure. Et nous avons tous une beauté intérieure, nous avons tous des qualités, nous avons tous des compétences, des savoir-faire, etc. Simplement, quand on est en dévalorisation, tout cela, on ne le voit plus, on l'a perdu de vue et de l'esprit, on n'en a plus conscience. Et moi, j'ai vu dans mon cabinet des gens qui étaient très compétents, mais qui étaient dans une dévalorisation extrême suite à une perte d'emploi, par exemple, ou à une rupture affective. Alors qu'ils étaient très bons, très forts, mais ils ne le voyaient plus. Donc, il faut réapprendre à ces personnes-là par des processus. Moi, j'utilise beaucoup les crises, des exercices écrits, dont on pourra aussi reparler si vous voulez, mais j'utilise beaucoup
Oui.
l'écriture pour apprendre à la personne à voir le positif de sa vie passée, à voir les succès passés, à reconnaître ses compétences, à reconnaître sa valeur, à reconnaître toutes ses qualités, tout ce qui est bon chez elle. Et ça, c'est un processus qui se fait sur des mois et des mois et des mois. Et progressivement, la personne change de regard sur elle et sur sa vie et va enfin retrouver de la confiance qu'elle avait totalement perdue. Bon, voilà, c'est inverser ce processus parce que ce processus, il est vraiment subjectif. Hein, tout n'est que subjectif et que relatif. Et si je change de lunettes et que je prends mes lunettes positives, c'est-à-dire que je regarde ma vie autrement que de la voir vide, mais si je la vois pleine, c'est-à-dire si je vois le verre à moitié plein et tout ce qui a déjà été bien et positif et tout ce que j'ai déjà fait de bien et mes qualités et mes compétences, progressivement par des exercices écrits, des exercices aussi de relaxation, visualisation positive, j'intègre ces nouvelles données et je retrouve de l'estime de moi et de la confiance.
L'idée finalement, c'est qu'avec l'écrit, on prend un petit peu de recul, et on comprend mieux la vision qu'on a de soi.
Alors, l'écrit, oui, ça permet déjà de prendre du recul, effectivement, et puis ça permet de mieux intégrer. C'est vraiment, je dis toujours, l'écrit, c'est 50% du chemin. Donc, quand on écrit, et ça, j'enseigne ça dans mes coachings, quand on veut atteindre un objectif, par exemple, c'est vraiment important de l'écrire. C'est important de l'imager avec des images, de le visualiser, bon, etc., etc. Et là, c'est pareil. C'est vraiment important quand quelqu'un écrit ses qualités, quand quelqu'un écrit ses compétences, quand quelqu'un va écrire tous les points positifs de sa vie passée depuis le début, depuis sa naissance, et qu'il va se rendre compte finalement par l'écriture et avec du recul, ben que ouais, ma vie n'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Je croyais qu'elle était, j'avais oublié qu'elle était bien quoi, ma vie. Et donc à partir de là, l'écriture c'est vraiment la moitié du chemin et ça permet vraiment une première prise de conscience. Et puis les 50% restants dans ma pratique, c'est d'utiliser les techniques de sophrologie, c'est-à-dire de relaxation, visualisation positive, pour amener la personne à revivre des événements positifs, des succès, etc., etc., ce que j'appelle des ressources, pour la réancrer dans ses ressources positives. Et c'est vrai que ça, c'est les 50% restants quand quelqu'un pratique ce genre de relaxation, visualisation positive par rapport à des succès, par exemple, qu'elle a déjà eu dans le passé. Eh bien, elle est redynamisée, hein. En sophrologie, on appelle ça des relaxations dynamiques. Elle est dynamisée et elle retrouve vraiment confiance et ça change. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient, passez-moi l'expression, au fond du trou et qui, presque du jour au lendemain, par la sophrologie, par tout ce que je suis en train de vous dire, a désamorcé donc des traumatismes du passé, parce que ça c'est important, et en même temps, par la valorisation et par l'intégration, par des relaxations, visualisations positives, en revoyant des succès passés, bien à retrouver presque, je veux dire presque spontanément, et parfois il faut, ça dépend, il y a des gens, ça prend quelques jours, parfois d'autres quelques semaines, d'autres plusieurs mois bien sûr, ça dépend du passif, mais il y a des personnes qui ont fait le, comment dire, qui ont changé du tout au tout grâce à ce type de travail-là, et excusez-moi si j'insiste, la relaxation, visualisation positive, c'est-à-dire le travail avec l'inconscient, ça rejoint aussi l'hypnose que je pratique, permet vraiment d'ancrer des valeurs positives comme des succès dans un processus de valorisation.
Alors, est-ce qu'il est nécessaire de retourner vers des moments de son passé qui ont justement poussé la personne à perdre au fur et à mesure l'amour qu'elle avait pour elle-même?
Oui, absolument. Ça, c'est ce que j'appelle la voie introspective. D'introspection, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire que j'amène la personne à vraiment aller voir dans son passé ce qui la dérange, et notamment par rapport à l'estime de soi, par rapport à la dévalorisation, d'aller trouver, d'aller chercher, je suis là pour l'accompagner, des événements qui l'ont amené vraiment à perdre confiance en elle, à perdre totalement l'estime d'elle-même, à avoir des sentiments négatifs comme je suis nul, je suis pas capable, je ne vois rien, je n'y arriverai jamais, etc. Donc identifier ce type d'événements-là, et quand on les a identifiés, on peut vraiment les désamorcer. Et là, je pratique l'EFT, donc c'est un de mes outils de coaching, c'est-à-dire l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, qui est une technique énergétique, et qui permet vraiment, en quelques séances, de libérer la personne de son traumatisme et de la reprogrammer aussi en positif derrière. Donc, quand quelqu'un a... Par exemple, j'ai eu une personne qui avait vécu une réflexion de son professeur qui, pour nous, pourrait nous paraître anodine, mais pour elle, c'était vraiment la honte par rapport à tous les autres élèves, et ça l'avait marqué, et quand elle en a reparlé, elle en a pleuré, et on a travaillé ça avec les techniques que j'utilise, et quand je l'ai remise en situation, à la fin de la séance, elle n'avait plus l'impact émotionnel. Alors, on a vraiment, ça a permis vraiment de désamorcer ce traumatisme qui, en fait, lui donnait un sentiment d'incapacité et que, de toute façon, les autres étaient meilleurs qu'elle et qu'elle, de toute façon, elle devait passer au deuxième ou dixième plan, quoi. Donc, voilà, c'est ce genre de travail que je fais avec mes patients.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des gens qui finalement ont simplement un regard critique vis-à-vis d'eux-mêmes mais ont pu avoir une enfance entre guillemets très heureuse où on les a poussés à aller de l'avant et justement à avoir confiance en eux, hein? Est-ce que ça peut venir juste de soi en fait, la dévalorisation?
Alors, moi j'ai toujours relié la dévalorisation à des événements spécifiques. C'est vrai que le cas que vous me citez, je ne l'ai pas rencontré. C'est-à-dire si quelqu'un vraiment est dans un processus de valorisation, si on lui a appris ça, si les parents étaient là en lui disant « ben ouais, t'as 10 sur, ou t'as 12 sur 20, ben c'est déjà très bien », au lieu de lui dire « tu pourrais faire mieux ». Donc si vraiment cette personne a été vraiment valorisée, elle est dans cette dynamique-là. Par contre, il peut y avoir des événements. On peut en vivre tous, on est encore une fois, je disais, dans un monde très compétitif, qui font qu'à un moment donné, une rupture affective, une séparation, une perte d'emploi, un échec professionnel, etc., etc., peut nous faire perdre confiance subitement, hein, ou si ça se répète et qu'on ne règle pas ça. Donc effectivement, là, nous avons des outils pour accompagner ces personnes-là, comme je le disais. Mais de toute façon, Moi, ce que je constate dans ma pratique, alors c'est peut-être que je suis pas très objectif parce que je reçois toujours des personnes qui ont des difficultés.
Oui.
C'est vrai que voilà, là, il y a énormément d'autocritique, de dévalorisation, mais je côtoie aussi beaucoup de monde, j'ai un réseau de relationnel assez important et je m'aperçois que voilà, il y a dans le discours, dans ce que je reçois, dans différents échanges par messagerie mail ou autre, il y a quand même beaucoup d'autocritique et c'est pour ça que moi je base mon coaching, mon accompagnement sur l'estime de soi. Pour moi, c'est le cœur de tout et je dis dans mes cours que l'amour, enfin, je ne vais pas vous démontrer ça, je vais pas démontrer ça à qui que ce soit, mais l'amour est au centre de tout et c'est vraiment important de retrouver d'abord l'amour de soi pour retrouver aussi un équilibre affectif par ailleurs au niveau relationnel et pour trouver aussi un équilibre social. Donc pour moi, c'est fondamental. J'ai un constat qui est le constat suivant, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes souffrent vraiment de l'estime d'elles-mêmes et sont vraiment dans le jugement. Et il n'y a pas pire que le jugement et surtout le jugement tourné vers soi.
Alors, est-ce que les complexes physiques sont une problématique que vous avez l'habitude de côtoyer?
Alors, les complexes physiques, oui, c'est aussi ça induit de la dévalorisation, bien sûr, puisqu'on retrouve ici des processus de comparaison. La société nous renvoie toujours des standards de poids, des standards sociaux, des standards professionnels, des standards de succès, des standards de réussite. Et le physique n'y échappe pas, n'échappe pas à ce type de standards. Et donc voilà, parce qu'en plus on est bombardé par les médias de ces différents types de standards. Nous devons vraiment tous être comme le modèle qu'on nous montre dans les médias. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement plutôt, je crois,
Oui.
nous ne sommes pas comme ces standards-là. Et tant mieux, hein, nous sommes ce que nous sommes. Et le but du jeu, c'est d'apprendre à nous accepter comme nous sommes. C'est le but de mon coaching, c'est vraiment d'amener la personne à avoir justement ses pleins et que même si il y a des problèmes physiques, même s'il y a un handicap, même s'il y a trop de poids, etc., il y a dans cette dimension-là une beauté physique et une beauté aussi intérieure. Et c'est vrai que quand la personne commence à s'aimer déjà intérieurement, à travers déjà peut-être des compétences qu'elle a et qu'elle exerce, eh bien, l'acceptation commence à venir et l'acceptation des problèmes physiques commence à venir. Bon, après, il y a aussi un travail plus spécifique par rapport au corps, par des exercices aussi corporels spécifiques. On va prendre la personne, par exemple, tout simplement à savoir toucher son corps, à savoir voilà, l'apprécier dans sa forme par le toucher, par exemple. Bon, ça, c'est ce genre d'exercice qu'on peut donner, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, c'est pour ce genre de problématiques-là, on est aussi dans le même processus. Mais pour moi, le plus important, c'est d'amener la personne, finalement, à changer de regard au niveau de beaucoup de choses, de l'amener à voir tout ce qui est déjà bien dans sa vie, à différents niveaux, pour mieux accepter ce qui peut lui poser problème actuellement.
Et finalement, ce que vous faites, c'est presque un déconditionnement de l'image qu'elle a eue d'elle-même pendant des années.
Oui, c'est exactement ça. J'aime bien ce mot déconditionnement. J'utilise moi un autre mot aussi qui est déprogrammation. Nous n'arrêtons pas de nous programmer, nous nous sommes programmés parce que nous avons accepté certains schémas extérieurs, familiaux, éducatifs, etc. Nous avons accepté pour nous avons cru certaines choses, et puis nous croyons aussi, encore une fois, nous sommes bombardés par beaucoup d'informations et parfois nous croyons que tout ce qu'on entend, ben, finalement c'est vrai. Et voilà, donc il y a de la programmation, de l'autoprogrammation, du conditionnement. Et le but, vraiment, voilà, c'est de changer de regard. Donc, effectivement, c'est d'identifier aussi les croyances limitatives et d'aller vers des croyances plus expansives, de les transformer aussi. Ça fait partie aussi du coaching, de travailler sur les croyances. Donc, effectivement, voilà. des programmations par rapport au traumatisme passé, des programmations par rapport à des croyances limitatives, négatives, etc. Et puis reprogrammation derrière, en portant un regard positif sur soi, sur sa vie, sur ses valeurs, sur ses compétences, sur ses qualités, etc., etc. Et puis aussi par, ce que je disais tout à l'heure, l'utilisation de l'hypnose ou la relaxation, visualisation positive ou sophrologie, hein, technique qui permettent d'accéder, de programmer, de reprogrammer l'inconscient.
Alors, est-ce que les gens que vous recevez se placent parfois aussi un petit peu comme des victimes ?
Oui, ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement. Mais justement, pour moi, un bon coaching, c'est d'apprendre à la personne à devenir autonome et à sortir de ce positionnement de victime. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de guérison totale, à quelque niveau que ce soit, physique ou psychologique, si la personne vraiment, si elle ne sort pas de ce positionnement de victime. Parce que si elle pense que, effectivement, c'est la faute de mes parents, de ceci, de cela, du professeur, de l'éducation, de la société, etc., elle ne pourra jamais s'en sortir. Donc, elle doit comprendre, et là je vais beaucoup plus loin dans mon accompagnement, moi je dis toujours à la personne, vous savez, tout ce que vous avez vécu, c'est un miroir de ce que vous êtes. Alors, ce n'est pas toujours facile d'accepter, mais c'est vraiment pour l'amener à se responsabiliser, pas du tout pour se culpabiliser, mais c'est juste pour la libérer, en fait. Parce que c'est pour lui permettre d'accéder à son pouvoir intérieur. C'est-à-dire que si ce que je vis est un miroir de ce que je suis, si je change ce que je suis, je peux changer ma vie. Voilà. Donc, c'est ce processus-là. Et je dis, c'est ni bien ni mal si j'ai rencontré de la dévalorisation, si on m'a rabaissé, etc., etc. C'est que moi-même, j'avais un sentiment, quelque part, de négatif vis-à-vis de moi, de nullité, etc., vis-à-vis de moi. Donc, ça me permet d'en prendre conscience. Et je dois effectivement changer de regard vis-à-vis de moi, apprendre effectivement à poser un regard positif et bienveillant sur moi, et à partir de là, je vais changer ma réalité. Donc voilà, moi j'amène les personnes à être vraiment responsables à 100%. Et le but aussi de mon accompagnement, de mon coaching, c'est de donner des outils que la personne va pouvoir aussi utiliser chez elle, comme l'EFT par exemple, ou des séances de relaxation, visualisation positive, pour vraiment se prendre en main, se prendre en charge, et qu'elle puisse se dire, maintenant c'est moi qui dois travailler sur moi, c'est moi qui dois prendre conscience de mes croyances limitatives, c'est moi qui dois prendre conscience de mes pensées négatives vis-à-vis de moi que j'ai tous les jours, etc., etc., de mes schémas ou de mes scénarios négatifs que je me fais, et je dois les changer. Voilà. Et c'est ce que j'enseigne à travers aussi l'accompagnement par rapport à la gestion de la pensée, parce que nos pensées créent notre réalité. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question, j'aide dans mon coaching les personnes à sortir de leur situation de victime, en fait, dans laquelle elles croient être.
Et puis finalement, comme vous le disiez, ça fait écho aussi à un ressenti intérieur, et que peut-être que les expériences que ces gens vivent ne sont pas là par hasard et vont leur permettre d'avancer par la suite.
Absolument, absolument. C'est dans mon coaching, je dis la chose suivante, je dis, nous sommes des élèves de la vie, et toute expérience est là pour nous apprendre, et si nous nous positionnons un élève, et que nous cherchons à tirer la leçon de toute expérience, alors la vie est merveilleuse, parce que chaque expérience, même des expériences traumatiques, et moi je sais de quoi je parle, je suis pas là pour parler de moi aujourd'hui, mais j'ai vécu une enfance difficile, donc je sais de quoi je parle, mais même ces situations-là, si j'avais pas vécu ces situations, je sais pas si je serais ce que je suis aujourd'hui. Donc par mes situations douloureuses, et en sortant d'une position de victime, ou de jugement, ou de culpabilité, ou même de rancœur, par exemple, envers les autres, eh bien, j'ai pu me sauver moi-même, j'ai pu transformer cela en positif et en faire une force. Donc, toute expérience, en fait, est là pour nous apprendre, et quelle est la leçon de vie, l'enseignement, la force que je peux tirer de ça, et je répète, même des expériences les plus douloureuses. De toute façon, j'ai tiré, et nous tirons, les leçons les plus importantes des expériences les plus douloureuses, à condition de se positionner comme un élève et de vouloir tirer les leçons, et de ne pas se positionner comme une victime, parce que sinon là, nous tirons bien sûr aucune leçon.
Alors, Alors, en tout cas, c'est un beau métier que vous exercez, Philippe, et mener les gens vers un amour plus profond, intérieur et à la fois extérieur d'eux-mêmes. Je pense que c'est quelque chose aussi qui doit vous rendre heureux au quotidien quand vous voyez les gens évoluer, changer.
Absolument. Merci de cette question parce que c'est vrai que ça, c'est le, je le dis toujours, c'est le cadeau. C'est le cadeau de tout cela. C'est pour moi, c'est le plus beau cadeau. Quand je vois la personne qui va mieux, qui retrouve confiance, qui a du succès, etc., etc., ben pour moi, voilà, c'est le travail est fait et puis le cadeau, il est là. Et j'ai des retours positifs régulièrement, notamment aussi sur mon site. Et c'est vrai que c'est vraiment c'est le cadeau de tous les jours, quoi. Voilà, c'est pour moi, voilà, je sais que j'ai accompli ce que je devais accomplir, et voilà, c'est de redonner de l'autonomie à la personne, lui permettre enfin d'être bien avec elle-même, d'avoir un bon rapport à elle-même, et finalement à partir de là d'avoir plus de succès, un succès au sens large du terme, plus de réussite dans sa vie parce qu'elle est bien avec elle. Alors c'est et donc je souligne au passage qu'effectivement on ne peut pas avoir de réussite dans sa vie si on ne s'aime pas soi-même, si on n'a pas d'estime de soi, si on n'a pas de confiance en soi grâce à l'estime de soi. Voilà, c'est oui, merci pour cette question, c'est le cadeau, il est là.
Alors en tout cas Philippe, on peut vous retrouver sur un site internet, est-ce que vous pourriez nous donner l'adresse?
Oui, alors le site c'est http://, ou alors www aussi, hein, c'est la même chose, www.coaching, dont le mot coaching, tiré du 6, puis en, puis tiré du 6, or, coaching en or, donc coaching tiré en tiré or.com, coaching en or.com.
Alors, www.coaching-du-haut-en-du-haut-or, c'est ça, .com.
Voilà, coaching en or.com, voilà. Et sur ce coaching, j'offre pendant 6 mois un coaching gratuitement qui est uniquement centré sur l'estime de soi. Il y a 9 cours centrés sur l'estime de soi, parce que pour moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est le plus important. Je sais que c'est la base, sans ça, il n'y a pas de succès possible par la suite, il n'y a pas de bien-être possible, il n'y a pas même de santé meilleure possible après. Donc vraiment, voilà, j'offre des ressources, des articles chaque semaine, et des ressources audio et vidéo sur ce site.
Alors, pour les auditeurs, peut-être qui souhaiteraient vous contacter et venir vous consulter, où est-ce qu'on peut alors où est-ce que vous êtes déjà?
Alors moi, je vis en Suisse. Je vis entre Lausanne et Berne en Suisse. Je suis français d'origine, mais je vis en Suisse depuis quelques années. Et on peut me contacter alors soit via le site, soit je peux laisser aussi mon numéro de téléphone. Je peux consulter aussi à distance, je fais régulièrement. Ben, hier j'ai eu un rendez-vous pour une personne qui vit à Paris justement, et je vais travailler avec elle via Skype, via la vidéo, via Internet. Donc je travaille aussi à distance via des outils Internet. Et sinon je peux vous laisser mon numéro de téléphone si vous voulez.
Allez-y.
Donc 0041. 78 89 51 511.
Alors en tout cas pour tous les auditeurs qui ont écouté l'émission, qui ont envie de rentrer en contact avec vous, peut-être simplement pour vous poser des questions ou en tout cas démarrer un travail, on espère en tout cas que cette émission aura créé des déclics. Et pour tous les gens qui se sentent concernés, c'est vrai, il est important, je pense que vous l'avez répété assez de fois, mais le bien-être, le bonheur, ça passe aussi par l'amour de soi, et c'est extrêmement important.
Oui, c'est vraiment extrêmement important. C'est moi-même, si j'enseigne ça aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par ce processus-là. Avant 30 ans, je ne m'aimais pas, je me critiquais, je me jugeais, etc. J'étais vraiment pas gentil avec moi, j'étais très exigeant avec moi, donc j'avais pas de bons résultats, ni dans quoi que ce soit. Donc j'ai appris, en fait, j'ai pris conscience un jour que j'étais très critique envers moi-même. Et donc j'ai appris à m'aimer, et j'en ai fait, et c'est mon cheminement, et ça a changé toute ma vie. Je veux dire, le fait de s'aimer, ben les autres nous aiment, on a de meilleures relations, on a plus de succès dans tous les domaines. Bon, bref, c'est ce que j'enseigne, et je sais par expérience, pour l'avoir vécu, pour le vivre avec mes patients, que c'est pour moi le cœur, la base, l'amour, c'est au centre de tout. Hein, donc voilà, nous le savons tous. Donc effectivement, pour ceux qui ont des questions ou plus.
Alors en tout cas, un grand merci Philippe pour vos propos et puis bah écoutez, vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu.
Merci aussi à vous, merci pour votre émission, merci de votre accueil, merci pour toutes ces émissions super que vous faites et oui, au plaisir, à bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Nathalie.